croisée.
Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour. Croisée est aujourd'hui à Berlin, où je suis venu à la rencontre de mon invité, auquel je sais gré de me recevoir, un maître de l'interprétation dite historique, et mon maître à penser, René Jacobs. Bonjour et bienvenue dans Croisée.
Bonjour.
J'ai pour coutume dans cette émission de retracer le parcours de mon invité, ses conquêtes artistiques, mais je vais pour une fois déroger à cette règle. Je ne vous raconterai donc pas comment René Jacobs a trouvé sa voix, celle de contre-ténor. Je ne vous dirai pas non plus pourquoi il est passé à la direction d'orchestre, car tout cela appartient déjà à l'histoire. Et mon confrère Nicolas Blanmont la narre sans complaisance ni effet de style, rien que des faits et des témoignages, dans « Prima la musica, prima le parole » paru aux éditions Versant Sud. Non, je vais plutôt tenter de tirer les conclusions de ce parcours, des conclusions qui ne sont certes pas définitives, afin de mieux cerner peut-être ce que j'appellerais la méthode Jacobs. Alors derrière cette expression sans doute péjorative à première vue, ne se cache ni une grille de lecture systématique, ni la mise en pratique d'un dogme bête et méchant, encore moins une recette miracle. Non, la méthode Jacobs, c'est une approche philologique et pluridisciplinaire de l'interprétation musicale, avec pour fil conducteur une exploration chronologique de la musique vocale, sacrée ou dramatique, qui vous a pour l'heure mené jusqu'à Rossini. Alors, ceci implique d'une part un retour aux sources, littéraires et musicales, manuscrites et imprimées, de la confrontation desquelles découle parfois la nécessité d'établir une nouvelle édition de la partition, et d'autre part un examen critique de toute la littérature se rapportant à l'œuvre qu'il s'agit de faire résonner comme au premier jour. Car restituer une œuvre dans son contexte historique, stylistique et intellectuel en restitue la modernité, qui a peut-être tendance à s'émousser dans une approche purement musicale. D'autres avant vous se sont persuadés, et par là même nous ont persuadés, de la nécessité de ce travail préalable, mais aucun, sans doute, n'était allé aussi loin dans cette démarche qui, incontestablement, nourrit l'interprétation. Et là où s'arrête le scientifique, l'interprète doit évidemment prendre le relais. Dieu sait que celui-ci fourmille d'idées, et j'ose penser que Haydn, dont vous dirigez l'Orlando Palladino à la Staatsoper en ce moment, ne me contredirait pas. Alors justement, René Jacobs, grâce à votre enregistrement d'Idoménée de Mozart, c'est un librettiste que vous réhabilitez, l'abbé Varesco. Avec Orlando Palladino, c'est le blason du compositeur même qu'il convient de redorer, non que quiconque songe à contester son importance dans l'histoire de la musique, mais parce que ses opéras demeurent méconnus, parce que négligé, parce que souvent méprisé. Pourquoi ?
Ben je crois, j'ai pas vraiment une réponse à ça, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans l'histoire de la réception d'un compositeur. Haydn, qui était reconnu par Mozart et Beethoven comme leur maître absolu, a tout de suite été, donc, par son premier biographe, qui était un Italien, Carpani, qu'il admirait beaucoup, mais il a été critiqué comme compositeur d'opéra au début du XIXe siècle. Carpani écrivait que ce grand compositeur de symphonie et aussi d'oratorio vaut moins en matière d'opéra. Et ce jugement est resté, tout le monde a copier ce que Carpani a dit. Et voilà, la musicologie s'est bien sûr penchée sur Haydn comme compositeur de musique instrumentale et d'oratorio, mais rien, il n'y a pas de recherche sur Haydn comme compositeur d'opéra. Il n'y a pas un livre. Ça, c'est vraiment quand même incroyable. Il n'y a pas un livre, ni au 19e siècle, ni au 20e siècle, sur spécifiquement Haydn comme compositeur d'opéra. Tandis que, avec les livres depuis le 19e siècle, donc, sur les opéras de Mozart, on peut remplir toute une bibliothèque. Donc, c'est très, très injuste. Et justement, il est méconnu parce que les premiers coupables sont les musicologues. Ils ont totalement négligé. Et alors, on dit très vite, surtout au 19e siècle, maintenant, ça s'améliore un peu, aussi de plusieurs opéras de Mozart. On a dit, Idomeneo, par exemple, Varesco, c'est un livret faible, mais Mozart en a fait ce qu'il pouvait. Et en partie, c'est de la musique divine. Et il faut revoir tous ces partis pris. De lire que le livret est mauvais, mais le compositeur en a fait quelque chose, ça doit allumer une petite lampe dans la tête de « je ne vais pas croire ça avant que j'ai étudié moi-même le livret ». Rien que, par exemple, un opéra maintenant très connu, très souvent joué, « Così fan tutte » de Mozart, il y a le jugement de Beethoven là-dessus et le jugement de Wagner. Les deux, Beethoven et Wagner, ont détesté le livret. Mais Beethoven a dit, voilà, c'est incroyable quand même de constater que Mozart a su faire une musique tellement personnelle et originale avec un livret si misérable, un so elendes Machwerk, c'est vraiment plus encore que misérable. Et Wagner a dit le contraire. Il a dit, le livret est tellement mauvais que Mozart n'en a fait pas une grande musique. Donc, il faut être très, très, faire très attention avec tous ces jugements. Que ce qui est sûr maintenant, sur Haydn comme compositeur d'opéra, c'est que le niveau de la musique égale le niveau de la musique d'opéra de Mozart avant Figaro. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Haydn, quand il a vu Figaro, il a dit, c'est documenté ça, c'est tellement génial, je ne veux plus écrire un opéra. Il a fait encore pour Londres l'Anima del Filosofo, mais c'est resté inachevé parce que le projet a été annulé. Et ça le rend, dans mes yeux, très sympathique qu'un compositeur, sur un jeune collègue, puisse dire des choses si honnêtes de sa part. Mais je trouve qu'il aurait dû continuer à écrire des opéras parce que la qualité de la musique des derniers drames, c'est quand même des drames aussi de Haydn, c'est la création et les saisons, on connaît leur valeur. Il aurait pu faire ce que Mozart a fait, mais il n'a pas fait. Mozart est allé chercher lui-même des livrets. Il a lu des livrets, par centaines, il dit dans ses lettres. Et le plus souvent, il était très déçu. Il a commencé parfois à écrire une partie, un acte d'un opéra. Puis il s'est arrêté parce qu'il se sentait un compositeur libre. Haydn, c'était encore la génération des compositeurs qui étaient au service d'un monarque. Ici, c'est donc ce Nikolaus de Esterhazy. Et c'est Nikolaus qui lui donnait les livrets et qui demandait parfois à son intendant de son théâtre, Nunziato Porta, de faire une adaptation d'un livret qui existait déjà. C'est le cas de cet opéra. Et Haydn a écrit la musique pour cette pièce. Mais la qualité musicale égale Mozart, par exemple, de la Finta Giardiniera. La qualité de la musique surpasse de loin, à mon avis, tous les autres contemporains. Donc, quoi qu'ils en disent, les Italiens, Cimarosa, Paisiello, bien en dessous de Haydn pour l'originalité, pour le, par exemple, dans ce Orlando Palladino, les harmonies, les modulations qui sont surprenantes parfois. On dépasse presque Mozart. On pense à Schubert à un certain moment. Et donc, il avait une grande expérience avec l'opéra, Haydn, parce qu'à Esterházy, il a aussi dirigé tout ce qui était populaire à cette époque. Donc, Anne Fossi, Paisiello, etc., tous ces compositeurs. Il les a surpassés. Maintenant, puisque les musicologues n'ont pas fait leur boulot, c'est au chef d'orchestre, au metteur en scène, de se pencher et de vraiment d'étudier ces opéras. Et Orlando Palladino, je connaissais depuis une dizaine d'années, mais seulement la musique. Et j'avais vu dans la partition que c'était une très belle musique. Donc, j'ai commencé à étudier les livrets. Et dans les livrets, par rapport au livret, la musique est parfois étrange. Et c'est ça qui m'a intrigué. Et j'ai commencé à trouver une explication pour ce phénomène, que la musique, pour un opéra comique, est si profonde. Maintenant, pourquoi ? Il faut aussi, quand un livret est une adaptation d'un autre livret qui existait déjà depuis une trentaine d'années, il faut commencer à lire cet autre livret. Et éventuellement même lire la musique pour cet autre livret, ce que j'ai fait. La musique est de Pietro Guglielmi et elle est vraiment très inférieure. Le poète de ce livret, qui est à l'origine du livret de Haydn, s'appelle Badini. Et c'est donc l'opéra, le genre de l'opéra s'appelle Eroico-Comico. C'était un genre qui était aimé au XIXe siècle. On se moquait du monde héroïque des chevaliers du Moyen-Âge. Par exemple, le thème de Don Quichotte revient très souvent au XVIIIe siècle. Ici, c'est Orlando. Donc, le modèle littéraire pour ça, c'est bien sûr l'épopée Orlando Furioso d'Ariosto, mais qui date d'une époque bien, bien ancienne, déjà pour le XVIIIe siècle. On parle du Moyen-Âge. Et les livrets héroïco-comico étaient bien sûr des livrets comiques. Maintenant, ce livret de Badini est comique d'un bout à l'autre. Quand on compare avec le livret de Porta, la première chose qui frappe, c'est que beaucoup de scènes comiques de Badini ont été remplacées par des scènes plus sérieuses. Il y a un personnage qui, même dans Badini, est totalement comique, Medoro. Ici, c'est un personnage sérieux. Et l'opéra commence musicalement d'une façon très légère, une sinfonia, une ouverture en un mouvement, en si bémol majeur, très très légère, vraiment une vraie ouverture pour quelque chose qui va être extrêmement léger. Et c'est comme ça que l'opéra commence, par un trio comique, par deux airs totalement dans le style de l'opéra comique. Et puis il y a la première, je propose d'appeler ça rupture. Il y a une sorte de rupture. Il y a le personnage d'Angelica qui est introduit. Après, le personnage de Alcina, la bonne fée de cet opéra. Et puis le personnage de Medoro, donc Angelica et Medoro s'aiment mutuellement. Elle est la reine de la Chine, Katai, ou la princesse. Et lui, c'est un simple soldat né au Maroc. Le background historique, c'est les croisés et les musulmans, etc. On trouve une musique beaucoup plus profonde, avec surtout ces personnages d'Angelica et Medoro, une musique qui fait penser plutôt à un opéra qui n'est pas comique du tout. Il y a une chose qui intrigue aussi dans le livret, c'est que les personnages, la liste des personnages, hein, n'est pas une liste comme on le fait habituellement, un personnage en dessous de l'autre, mais les personnages sont inscrits dans des triangles, et tous ces triangles ensemble forment un carré, et on a quelque chose qui ressemble à un plan d'une construction, d'un bâtiment, d'un édifice, et qui pourrait être interprété comme le plan d'une pyramide. La pyramide m'a fait penser à la flûte enchantée. Et la flûte enchantée aussi est un opéra où on trouve d'une part une musique très légère, la musique pour Papageno par exemple, dans un style très proche du lied populaire de l'époque. C'était bien sûr un singspiel, c'était un genre léger, avec des dialogues parlés, mais une musique beaucoup plus complexe pour Tamino, Pamina, une musique qui devient presque religieuse. Dans le deuxième acte, etc. C'est parce que, comme nous le savons très bien, parce que ça, cet opéra est bien connu, on peut lire le livret sur deux niveaux, le niveau du Singspiel et le niveau
Maçonnique.
maçonnique. Voilà, c'est une œuvre maçonnique. Il y a cette lettre de Mozart. Une dernière lettre qu'on a où il parle d'une représentation dans laquelle il ne dirigeait pas, mais il était dans une loge et il y avait un type à côté de lui qui se moquait tout le temps, surtout dans la première scène du deuxième acte où il y a un long monologue de Sarastro et Mozart se fâche. Et il dit. On ne peut rien faire avec des Papageno comme lui. Papageno considéré comme celui qui n'est pas initié dans ce monde meilleur qui est le monde le maçonnique. Et voilà, de plus en plus, j'ai commencé à voir qu'il pourrait, c'est une hypothèse, il pourrait s'agir de la même chose ici, qu'il s'agit d'une initiation, surtout pour les deux amants. Angelica, qui est la Pamina, et Medoro, qui est le Tamino d'Orlando Palladino, et évidemment aussi pour Orlando, parce que Orlando a perdu sa raison. Il est tellement, il est follement amoureux d'Angelica, qui ne répond pas à cet amour. Et quand, c'est le célèbre passage d'Ariosto qu'on trouve dans tous les Orlando de tous les compositeurs, quand il remarque les noms de Angelica et son rival Medoro inscrits dans les arbres, il devient fou. Il perd totalement sa raison. Dans cet opéra, il y a deux grandes scènes de folie, vraiment très très bien écrites par Haydn, mais il va retrouver sa raison, pas de la même façon comme décrit dans Ariosto. Ici, c'est parce que il va boire l'eau de la rivière de l'enfer, la Léthé, qui fait oublier.
Donc nous parlions de l'eau du Léthé. Nous allons écouter un extrait du troisième acte, l'air de Caronte, Ombre insepolte, qui est interprété ici par Thomas Quasthoff. Nous venons d'entendre Thomas Quasthoff dans un extrait du troisième acte d'Orlando Palladino de Haydn. Il était accompagné par le Freiburger Baroque Orchestra, que vous dirigez d'ailleurs dans cette production berlinoise, que vous reprendrez à Innsbruck cet été. C'était un disque Deutsche Grammophon. Année Haydn oblige, vous venez de graver la création. Alors, on parlait de la réception des opéras, la réception de l'oratorio, la création est presque inverse, puisque Haydn devient dieu au XIXe siècle grâce à cet oratorio. Est-ce que c'est parce qu'il illustre justement une philosophie qui est celle des Lumières et qui deviendra aussi le fondement de toute une... De tout le ce qu'on appelle le Biedermeier, finalement, toute une morale bourgeoise? Est-ce que c'est pour ça qu'il est si apprécié, finalement, tout au long du XIXe siècle et encore maintenant?
Mais je crois que c'est surtout à la qualité, la grande qualité de la musique, aux qualités aussi de ce texte, que le baron von Swieten a fait... en adaptant un texte anglais. Et Haydn avait une grande admiration pour les oratorios de Handel, qu'il avait entendu surtout en Angleterre, et il voulait faire mieux. Il a aussi totalement dépassé. Et je crois que c'est la spiritualité de l'œuvre convenait vraiment à un courant de la fin du XVIIIe siècle que après sera plus tellement compris au XIXe siècle d'ailleurs. Haydn était, comme Mozart et beaucoup d'autres, c'était un déiste. Beaucoup de francs-maçons étaient pas des athées, mais ils croyaient que Dieu existait, mais il était dans tout, dans la nature. Et il ne croyait pas tellement dans la religion institutionnalisée. L'œuvre a été très populaire, surtout au début du siècle, parce qu'il y a un grand courant au début du 19e siècle pour des grands effectifs, de grands chœurs, grands orchestres. On sait que Haydn a fait avec un nombre énorme de musiciens, beaucoup plus qu'on le fait maintenant, avec un orchestre de 120 et un chœur de 60. Ça peut être étonné que le chœur ait moins, mais le chœur était devant l'orchestre. Et c'est dans ce courant de... les premiers grands concerts aussi, qu'il faut voir le succès de l'œuvre. Et c'est une œuvre, évidemment, qui est plein d'humour, quand même. Il était un maître, Haydn, dans ce qu'on appelait en allemand la Tonmalerei, donc d'écrire en son toutes sortes de bruits, mais aussi des idées. L'idée du début de la création qui commence avec un grand accord qui peut penser maintenant à ce qu'on appelle le Big Bang, et puis une musique qui, au début, on ne peut pas comprendre, on n'a pas encore l'idée quelle est la tonalité, et qui se forme de plus en plus. On a dit sur la création que la plus belle chose est justement le début. C'est vrai que la description en musique du chaos initial est la partie la plus moderne. Il n'existe pas de musique de la fin du XVIIIe siècle plus moderne que ça. Mais de là dire que le reste de l'oratorio est un anticlimax, c'est faux, parce que toute la partie, donc la troisième partie, souvent jouée après la pause dans le paradis avec Adam et Ève, est très très belle. Et là on voit aussi que Haydn avait très bien choisi de s'arrêter avant le moment où le péché...
Avant la pomme.
Avant la pomme, voilà, avant la pomme. Et le dernier, l'apogée de cette dernière partie est un duo d'amour entre Adam et Ève en mi bémol majeur dans cette tonalité qui est la tonalité vraiment assimilée avec la musique maçonnique aussi. Et justement, les maçons prêchaient que on peut être heureux dans ce monde même, acceptant et voyant Dieu dans toute sa création.
Vous parliez de l'humour de Haydn. Pour l'illustrer, nous écoutons un extrait des Saisons. C'est même ici de l'humour domestique. Alors, c'est l'hiver, tout le monde est réuni autour du poêle. Hanne raconte une histoire dont la chute est absolument irrésistible, tel est pris qui croyait prendre. Nous écoutons Marlies Petersen, qui d'ailleurs chante Angelica dans la production d'Orlando Palladino.
Einst ein Edelmann, da er schon längst nach ihr gezielt, traf er und meint sie an. Er steht sogleich vom Pferd und sprach: Komm, küsse deinen Herrn, komm, küsse deinen
C'était Marlies Petersen et le Rias Kammerchor, accompagné par le Freiburger Baroque Orchester, dirigé par René Jacobs, dans un disque Harmonia Mundi, qui vient d'ailleurs d'être réédité pour l'année Haydn. Autre réédition, celle de votre premier disque symphonique, Haydn toujours, gravé en 2004. Qu'est-ce qui vous a incité à franchir ce pas vers le répertoire symphonique? Et je crois que vous avez dit que cela vous avait fait progresser en tant que chef.
Oui, au début, évidemment, venant du chant, je n'ai pas du tout pensé à m'occuper du répertoire symphonique jusqu'au moment où j'ai commencé à étudier les opéras de Mozart, surtout les derniers, où l'écriture est quand même très symphonique. Et pour mieux comprendre cette écriture symphonique dans les opéras à partir d'Idomeneo jusqu'à Clemenza di Tito, je me suis dit, tu devrais aussi faire ce répertoire sans chanteur. J'aime beaucoup les chanteurs, mais entre-temps, j'adore de faire aussi des programmes sans les chanteurs, où quand même il y a une sorte de drame. Où on peut faire chanter l'orchestre. Et le disque Haydn a été une décision très spontanée et improvisée parce que on avait donc une période d'enregistrement, l'orchestre était déjà là, mais ce n'était pas pour des symphonies. Prévu était un enregistrement que je n'ai jamais fait. D'air de concert de Mozart avec un soprano, mais qui est tombé malade, vraiment in extremis. Et donc, on a dû improviser, et on avait plus ou moins la distribution pour faire un disque de symphonie de Haydn. Il s'agit de deux symphonies que j'avais déjà fait avec d'autres orchestres, mais pas avec les Freiburger. Et oui, et ça a été une période très agréable parce que pour les Freiburgers, une des deux symphonies était totalement nouvelle. Et donc, il y avait une sorte de fièvre créative pendant ces quelques jours que je ne vais jamais oublier.
Les symphonies de Mozart, alors ce sont des sommets du répertoire symphonique. Est-ce que vous avez eu une appréhension au moment de diriger ces œuvres-là, en tant que débutant, entre guillemets, dans le domaine symphonique?
Évidemment, c'est les derniers opéras qui donnent envie de faire les dernières symphonies. Parce que c'est sûr que dans la symphonie Prague, il y a des allusions à Don Giovanni. Il y a le dernier mouvement, vraiment commence avec un thème qui est plus ou moins le même thème du duo comique entre la comtesse et Cherubino, juste avant que Cherubino va sauter par la fenêtre. Et c'est normal, parce que Mozart était dans sa tête occupé avec ces deux opéras, déjà. Et on sait très bien de ce qu'il a souvent dit, Mozart, qu'il composait. Souvent, il a dit, j'ai déjà composé, mais ce n'est pas encore écrit. Parce qu'il avait une mémoire géniale, une mémoire d'un génie. Et donc, il composait, en effet, il entendait la musique dans sa tête. Et puis, il le notait. Donc, ces symphonies, on peut très bien les faire aussi comme musique abstraite, mais pour moi, c'est une musique très liée à ces opéras. Le sol mineur qu'on a enregistré cette année, oui, le premier mouvement, c'est comme le premier air de Cherubino, de nouveau. Et la grande dernière symphonie, dite Jupiter, on ne sait pas très bien comment on est arrivé à ce nom, et nous met totalement dans l'atmosphère du monde maçonnique de nouveau. Aussi la symphonie en mi bémol majeur. C'est les deux tonalités, mi bémol majeur et do majeur, assimilées à la musique maçonnique.
Alors, en attendant d'écouter votre deuxième enregistrement de symphonie de Mozart qui paraîtra en mars ou avril 2010, je vous propose d'écouter un extrait de la 91e symphonie de Haydn. C'est le Menuet, dirigé par René Jacobs, toujours avec le Freiburger Baroque Orchestra. Nous venons d'entendre un extrait de la 91e symphonie de Haydn, dirigée par René Jacobs chez Harmonia Mundi. Mozart, on l'a dit, des derniers opéras, vous revenez à la flûte enchantée. Alors cette fois, ce n'est plus avec l'orchestre de la Monnaie, comme vous l'aviez fait à Bruxelles il y a quelques années, mais avec l'Académie für Alte Musik Berlin. Quelle est la différence entre l'orchestre d'instruments anciens et l'orchestre moderne? Est-ce que c'est une réactivité plus importante? Est-ce que c'est une plus grande souplesse? Est-ce que vous sentiez, par exemple, que votre flûte n'était pas aboutie la dernière fois parce que c'était des instruments modernes?
Mais on a certainement réalisé quelque chose de très acceptable avec l'orchestre de la Monnaie. Ils ont très bien fait en jouant sur des instruments modernes, mais quand même dans un contexte inhabituel pour eux, parce que mes conditions étaient que je puisse apporter mon propre concertmeister et que les cuivres, donc dans la flûte enchantée, c'est pas seulement les cors et les trompettes, aussi les trombones, soit des cuivres anciens. Et ce qui était pour une grande partie possible dans l'orchestre de la Monnaie, parce qu'ils ont des musiciens qui jouent ces instruments-là. Le seul musicien d'Andorre qu'on a dû inviter, c'était le premier cors. Et puis, évidemment, l'autre condition qui doit vraiment être remplie, c'est que la formation reste toujours la même, ce qui est très difficile d'obtenir ici en Allemagne avec ce système de répertoire. Et donc Bernhard Fork, qui est le premier violon de l'Académie für Alte Musik, est venu et il a fait un projet préparatoire avec eux, et on est certainement arrivé à un bon résultat. Évidemment, rien ne peut remplacer la couleur des vents anciens, aussi, les bois donc, surtout aussi, et la souplesse et la transparence des cordes de boyaux. Et maintenant qu'on a ce projet à Aix-en-Provence, c'est plus facile d'obtenir un orchestre sur instruments anciens. C'est finalement, dans le domaine du disque, il y a déjà beaucoup de Mozart sur instruments anciens, mais Da Ponte, c'est pas les seuls sur instruments anciens. Mais dans la réalité de la vie musicale de tous les jours, les maisons d'opéra, c'est très difficile d'obtenir cette possibilité. C'est plus facile dans les pays non germaniques, parce que le système est moins raide qu'ici, que toujours l'orchestre de l'opéra doit jouer. Et donc, et c'est prévu aussi qu'on enregistre la flûte enchantée à la fin de l'année. Et évidemment, puisque j'avais fait ce projet à Bruxelles avec Bernhard Fork, j'ai demandé aussi son orchestre, et avec lequel j'ai déjà fait un opéra de Haydn, le premier Haydn ici que j'ai fait, Il Mondo della Luna. Et on a bientôt les premières répétitions.
Autre sujet qui vous démarque des autres dans la flûte enchantée, c'est que les dialogues sont ponctués par un continuo.
Non, ça c'est beaucoup dire. C'est évidemment, ça reste des dialogues parlés. Le Singspiel, c'est comme l'opéra comique français, avec des dialogues parlés. Mais j'essaie d'obtenir que pendant un dialogue qui peut être d'une certaine longueur, la tension musicale ne baisse pas trop. Déjà dans le livret, on mentionne beaucoup de sons, de bruits dans ces dialogues. Parfois, on trouve une indication de maintenant, on entend un accord dissonant qui fait peur. Et cet accord n'est pas composé par Mozart. Donc, trop souvent, on a tiré la conclusion trop facilement que Mozart n'a pas voulu cet accord, il n'a pas composé. Mais évidemment, c'est facile de faire un accord dissonant avec un orchestre, sans que ça soit de la cacophonie. Mais on peut prendre l'accord le plus dissonant de Don Giovanni, par exemple. Ça va, si c'est isolé dans un dialogue, ça fait très grande impression. Et donc, il y a plusieurs bruits, puisque la deuxième partie de l'opéra se joue en dessous de la terre. Donc, il y a des bruits de tremblements de terre, aussi de tremblements de terre quand la reine de la nuit arrive, etc. Et pour ça, on a une percussionniste spécialisée dans l'improvisation, Marie-Ange Petit, à côté du percussionniste de l'orchestre. Et parfois, c'est vrai, j'utilise le pianoforte pour préluder un peu sur l'air qui va suivre, ça c'est rare, mais aussi quand on peut donner un sens à ça. Et il y a par exemple le moment où Papageno vient voir Pamina avec le portrait de Pamina pour comparer ce portrait avec la vraie Pamina. Et pendant ce dialogue, le pianoforte paraphrase un peu par moment l'air du portrait de Tamino. Et puis, un bon moment que j'ai trouvé pour musicaliser, c'est l'expression que j'utiliserais, musicaliser ces dialogues parlés, c'est quand Tamino ne peut plus parler, c'est une de ses épreuves qu'il ne peut pas parler. Et que Pamina demande, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes plus? Tout ce qu'il peut faire, c'est un soupir. Et au lieu de faire bêtement un soupir, je lui fais jouer un soupir sur sa flûte, parce qu'il a quand même la flûte. On n'a pas dit qu'il ne peut pas jouer la flûte. Donc, un soupir sur une flûte, c'est un port de voix. Ça arrive trois fois. Tout arrive toujours trois fois dans cet opéra. C'est aussi un élément maçonnique, évidemment. Et évidemment, on peut faire beaucoup avec la déclamation des chanteurs. Et là, il faut vraiment faire une grande différence, je crois, entre les rôles comiques. Papageno et Monostatovski qui doivent vraiment parler d'une façon réaliste. Et d'ailleurs, on sait que Schikaneder parler ces dialogues avec un accent viennois, ce qu'on va faire aussi à Aix, on a des viennois pour ces rôles-là. Tandis que les personnages sérieux, comme Pamina et Tamino, faisaient quelque chose qui ressemblait quand même à une déclamation dans la tragédie lyrique, par exemple. Donc avec un peu plus proche du chant que le parler banal.
Vous évoquiez l'arrivée de la reine de la nuit et ses percussions, ses tremblements de terre. Comme un avant-goût, je propose d'écouter l'air de fureur d'Elettra dans Idomeneo, d'Oreste et d'Aiace. Elettra est incarnée par la fulgurante, c'est le moins qu'on puisse dire, Aleksandrina Pandachanska, qui chante Alcina dans votre Orlando Paladino. Thank you.
Alexandrina Pandachanska se consumait dans la fureur d'Elettra et vous attisiez la flamme à la tête du Freiburger Baroque Orchester, un extrait d'Idoménée qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Si la création de Haydn fait un peu figure de dernier oratorio du XVIIIe siècle et la flûte enchantée de dernier opéra, qu'est-ce qu'il y a après ? Eh bien, vous venez de franchir le cap du XIXe siècle avec Tancredi de Rossini, que vous avez fait en concert et que vous allez reprendre l'année prochaine en version scénique à Vienne.
Cette année.
Cette année, pardon, la saison prochaine, cette année. Jusqu'où irez-vous ?
Oh, ça c'est... J'ai pas pour but maintenant de foncer aussi vite que possible dans la direction du futur. parce que je veux régulièrement revenir à l'opéra baroque et à tellement de choses encore, des lacunes aussi dans notre connaissance et dans la réception de l'opéra baroque. Maintenant, il y a une grande star, c'est Handel. Et tout le monde fait Handel, et je trouve pas toujours avec beaucoup de sérieux. Mais si on a un orchestre qui joue vite et des chanteurs virtuoses, on croit qu'on a gagné. L'opéra allemand, par exemple, ça reste une grande lacune, les contemporains de Handel reste une lacune. De Cavalli, on doit faire plus. Il y aura d'autres Cavalli dans le futur. À Vienne, au théâtre An der Wien, il y a une programmation très, très intéressante. Et puisque c'est un théâtre de stagione, donc, et puisque le directeur sait que j'ai envie aussi de faire de la musique plus tardive, c'est surtout le répertoire plus tardif que je vais faire dans le futur. Il y aura du Mozart, la Finta Giardiniera l'année prochaine, et il y aura prévu de faire au début de 2013 l'opéra écrit pour ce théâtre par Beethoven, Léonore.
Pour finir, permettez-moi de vous poser la question rituelle de cette émission. Quels ont été vos derniers chocs, vos derniers coups de cœur d'auditeurs, de spectateurs ou même de lecteurs, si vous voulez? Et quels sont les disques dont vous ne pourriez pas vous passer, s'il y en a?
Oh, ça, c'est toujours très difficile. Parce que j'écoute si peu de disques. J'ai pas le temps d'écouter des disques. Donc, je peux même pas vous dire maintenant quel est. Je peux vous dire qu'il y a des disques dont qui m'ont formé comme musicien et que j'ai écouté des centaines de fois quand j'étais enfant. Une grande découverte, un grand choc a été pour moi je crois que c'était le premier enregistrement de Fischer Disco, parce qu'il a fait plusieurs fois de la Schönemüllerin, la Belle Meunière, avec ce formidable pianiste Gerald Moore. Et moi, j'avais 12-13 ans et je chantais avec ma voix de soprano, de chœur aussi des Lieder de Schubert, et je commençais à découvrir Schubert comme compositeur et surtout le Lied et surtout donc ce phénomène, comment en chantant on peut déclamer un texte poétique sur un niveau plus magique que seulement la lecture. Et évidemment, les grands chocs ont été les premiers disques que j'ai entendus de Deller, parce que c'était le premier contre-ténor, c'était le seul à cette époque, que je connaissais.
René Jacobs, merci d'avoir accepté l'invitation de Croiser, dont je me dois de saluer le producteur, Camille de Rijck. Alors, vous serez cet été à l'affiche du Festival d'Aix-en-Provence du 25 au 31 juillet pour La Flûte Enchantée, que vous reprendrez en concert à la salle Pleyel le 22 novembre. Puis on vous retrouvera à Innsbruck pour Orlando Palladino de Haydn du 25 au 29 août. C'est encore loin, mais vous n'en dirigerez pas moins une nouvelle production de Tancredi au Theater an der Wien avec Vivica Genoux dans le rôle titre du 15 au 23 octobre. Au disque, c'est une pluie de nouveautés. On attend impatiemment votre version de la création de Haydn, qui paraîtra fin octobre en France chez Harmonia Mundi. D'ici là, on écoutera la Brockes Passion de Telemann et Idomeneo. Nous nous quittons justement avec un air que j'ai d'autant plus de plaisir à vous faire entendre qu'il est souvent coupé. C'est Torna la Pace, un extrait d'Idomene qui est interprété par Richard Croft. Ce rôle d'Idomene qu'il reprendra d'ailleurs cet été à Aix-en-Provence sous la direction de Marc Minkowski et dans une mise en scène d'Olivier Py. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Child,